Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Au sommaire d'un jour dans le monde, l'escale reportage au Chili, confronté à une immigration importante d'Haïtiens. Leurs conditions de vie sont difficiles. Justine Fontaine est à Santiago du Chili. Sous les radars de l'actualité, Virginie Pironon, la presse dans le monde ce soir, revue de presse avec nos correspondants en Grande-Bretagne, Antoine Gignot, et en Russie, Claude Bruyot. 18h55, l'édito diplo Anthony Bélanger, une œuvre d'art qui représentait des indépendantistes catalans censurés lors de la Foire internationale d'art contemporain à Madrid. Mais tout de suite, l'Iran, le métro de Téhéran, révélateur de la société iranienne. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, comme dirait Fabienne Saint-Est, que vous retrouverez après ses vacances la semaine prochaine.
Pierre Veille, un jour dans le monde.
Pierre Muscat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes photographe. Pierre Muscat, c'est pas votre vrai nom. Vous préservez votre anonymat pour pouvoir continuer à exercer en Iran votre travail. Vous êtes l'auteur d'un reportage dans le métro de Téhéran, publié dans la revue trimestrielle Oui, Demain. Plusieurs photos et puis un texte. Alors, Pierre Muscat, comment avez-vous réalisé ces photos? Parce que faire des photos dans le métro de Téhéran, c'est interdit.
Alors oui, c'est interdit, comme en France d'ailleurs. L'interdiction est valable dans les deux pays. Je prends souvent ça comme exemple. Et en Iran, c'est un lieu qui est particulièrement intéressant.
Pourquoi?
Et justement parce que dans la société iranienne, qui est une société qu'on imagine très divisée, hommes, femmes, etc., dans le métro, il y a une promiscuité absolument incroyable, puisque les métros, les rames sont bondées. Et donc, il y a un rapport au corps qui est extrêmement fort. On n'imagine même pas ce que ça peut être quand on prend le métro de la ligne 13, mettons, à Paris. Mmh. Et donc, dans ce pays où, justement, les corps sont quelque chose, un enjeu quand même de la religion, la situation est très intéressante parce qu'on voit à la fois une très grande violence, parce que, naturellement, les gens tentent de rentrer dans le métro pour pouvoir rentrer chez eux, oui. Et en même temps, une très grande gentillesse. Et ça, on n'a pas ce sentiment-là. Quand je prends le métro à Paris, j'ai pas du tout ce sentiment.
Mais dans une rame de métro à Téhéran, les trois voitures de tête et de l'arrière sont réservées aux femmes.
Oui, alors justement, ça c'est toute une histoire moi qui me passionne, parce que c'est vraiment l'endroit où j'aimerais être. Parce que dans ces voitures de femmes, naturellement, il s'y passe des choses incroyables. En particulier, les vendeuses qui, normalement, qui sont interdites, mais bon, le gouvernement n'a pas pu mettre ça en œuvre. Et en fait, dans ces wagons, des vendeuses passent avec des soutiens-gorge, des slips, des choses, des sous-vêtements pour femmes, etc. Et donc, c'est un petit peu... c'est assez amusant de les voir essayer ces choses-là, pas devant, naturellement, pas comme ça, sur les vêtements. Et il y a une ambiance vraiment très bon enfant, assez sympathique. Alors, on a, pour nous, effectivement, l'idée de ces wagons de femmes, ça nous choque, parce que, naturellement, on n'a pas ce genre d'organisation chez nous, mais j'ai des amies iraniennes qui vivent en France, oui. Qui m'ont dit que cette idée-là, ça leur plaisait pas mal, parce que entre être serré dans le métro, encore une fois, le soir, à Paris, et être tranquillement dans un wagon de femmes à Téhéran, parfois elles regrettent le wagon de femmes à Téhéran.
Pierre Muscat, il y a des codes vestimentaires dans le métro, et vous écrivez un texte qui accompagne ces photos dans Oui Demain, et ces codes vestimentaires permettent d'avoir une idée des strates sociales en Iran.
Alors oui, bien sûr, on reconnaît... la ville de Téhéran est divisée en deux. Il y a le nord, et ça n'a pas changé depuis la Révolution, qui est où se trouvent, disons, les gens les plus riches, la bourgeoisie iranienne, et le sud, qui est traditionnellement le quartier des pauvres, des déshérités. Et donc, quand on prend le métro, la ligne nord-sud, on voit très bien l'évolution, enfin, on progresse dans le métro de cette manière-là, c'est-à-dire on est près du bazar, on voit les femmes en chador noir, on imagine très bien qu'elles sont pauvres, et puis on monte vers le nord, et on voit des femmes habillées à l'occidental avec des foulards très en arrière maintenant. C'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs le degré de liberté, pas de liberté, mais disons quel type de régime est en place. C'est-à-dire aujourd'hui, les femmes ont un foulard très 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 en arrière, et j'ai lu encore très récemment que justement la police n'enfermera plus les femmes qui ne portent pas de voile. Ouais. Là, c'est une histoire récente, ça reste à vérifier. Mais enfin, donc ça permet vraiment le vêtement et ce qui caractérise vraiment les classes sociales. Et donc le tchador, c'est pas simplement un signe religieux, c'est aussi une façon de cacher un peu sa misère, comme à l'époque l'époque, chez nous, on mettait les tabliers dans les écoles, un peu. Et effectivement, on reconnaît tout de suite une femme à son vêtement.
Et pour vous, ce métro de Téhéran que vous avez photographié, ces passagers que l'on voit, vous dites que c'est un peu le paradoxe de la société iranienne, sa double face permanente.
Oui, alors, on pourrait en parler, parce qu'on pourrait même en parler par rapport à mon histoire personnelle. Et effectivement, on a beaucoup de mal à comprendre l'Iran, parce que l'Iran, c'est le pays... C'est le pays justement en permanence cette double face, c'est-à-dire qu'il y a le monde intérieur et le monde extérieur. En famille, dans les maisons, on fait à peu près ce qu'on veut. La liberté est totale. Moi, j'ai été invité à des soirées chez des amis où il y avait de l'alcool, où il y a du vin, où les gens sont dévêtus, etc. C'est le monde de l'intérieur et là, tout est autorisé. Et puis il y a le monde de l'extérieur qui est la rue, là où effectivement on doit avoir une espèce de façade très où les choses sont assez strictes. Et le métro, c'est un entre-deux, parce que c'est un intérieur, c'est un lieu fermé, extrêmement réduit, et en même temps, c'est le public qui se retrouve là. Donc c'est extrêmement bizarre. Moi, j'adore être dans le métro à Téhéran, justement, parce que on voit toutes ces situations inattendues. Par exemple, à une heure de pointe, moi, j'ai vu un groupe de bonhommes, d'hommes, faire irruption dans un compartiment de femmes, parce qu'il n'y avait plus de place dans le compartiment homme. Ça a été un tollé, parce que les femmes ont été mécontentes et tout ça. Il n'empêche que les hommes sont restés là. Et il y avait 50 hommes. À l'inverse, on peut aussi voir des femmes rentrer dans les métros du côté homme parce qu'il n'y a plus assez de place dans les compartiments femmes. Donc j'aime bien, moi, cette idée des a priori qu'on a volent en éclats quand on est dans le métro.
Il est beau, ce métro de Téhéran.
Alors, on n'imagine pas que c'est un métro absolument moderne comme on les fait chez nous. Enfin, ils n'ont rien à envier à notre métro. Tout simplement, effectivement, ils sont un peu plus remplis parce que peut-être qu'il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de lignes, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, les métros sont vraiment souvent pleins. Alors, le matin, aux heures de pointe, c'est assez l'enfer. Mais moi, j'aime beaucoup ça parce
Le projet a été lancé sous le chat d'Iran.
J'ai fait des photos il y a...
Alors, ce qu'il y a dans ce métro, et vous le dites, c'est aussi un espace de propagande pour le régime.
Ah, évidemment, mais tout est un espace de propagande. C'est-à-dire que, encore une fois, la révolution iranienne, pour nous, elle paraît lointaine, mais en Iran, c'est quelque chose d'assez récent. Ils vivent encore dans cette histoire-là.
Mais comment on la voit, cette propagande?
Il y a des affiches partout, cette propagande, c'est pas leur propagande, c'est leur... je dirais, pour nous, on va appeler ça la propagande, mais disons qu'ils déconstruisent la propagande, par exemple, des États-Unis. On va voir des images mettons d'Iwo Jima, la fameuse photo avec le drapeau, reconstruite à l'iranienne, en voyant par exemple la même photo refaite, mais avec au pied des soldats, des morts qui ont été tués pendant les guerres. Donc ils ont une intelligence, c'est pas quelque chose de simpliste. Il y a une grande intelligence dans ce qu'ils font. C'est pas simpliste. Et on voit aussi des fresques murales de type réaliste socialiste. Moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'on voit là des mollas dans une imagerie socialisante. Donc c'est vraiment intéressant.
Les Iraniennes et les Iraniens que vous avez photographiés, ils se laissaient photographier facilement?
Il y avait un doute, mais disons que je volais gentiment les photos. Personne ne m'a... Enfin, je faisais pas ça ostensiblement. J'ai été arrêté une fois par quelqu'un, et là, je pensais que c'était mon heure avait sonné. Mais en fait,
un policier.
C'était quelqu'un...
Sécurité intérieure.
Comme ça, sécurité, etc. Ouais. Et en fait, il m'a salué, il m'a remercié. Alors que, je le précise, en France, vous y risquez de gros problèmes à faire des photos dans le métro.
Ah bon, d'accord, très bien.
Non, je vous le dis parce que je fais souvent le parallèle des interdits. On a tendance à parler des interdits là-bas, et alors qu'ici, on
a quand même plus de liberté en France qu'à Téhéran. Il faut quand même ramener les choses à la réalité. Pierre Muscat, dans ce numéro de Oui Demain, on découvre 4 photos de ce métro de Téhéran. Je pense que vous en avez réalisé beaucoup d'autres.
Oui.
Décrivez-moi votre photo préférée lors de ce reportage.
Moi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup, alors vous allez trouver ça un peu curieux parce que effectivement pour une femme c'est pas très agréable à porter. Moi j'aime beaucoup le noir des tchadors. Je trouve que l'Iran est pour un photographe le pays de l'image. D'abord culturellement parce que c'est les dessins d'Isfahan, etc. qui remontent à plusieurs siècles. Mais et ce qui est étonnant c'est que dans un pays islamique, l'Iran a généré une imagerie absolument formidable, aussi bien en cinéma qu'en photographie. Et donc, ces voiles noires, ces grands voiles noires dans le métro, c'est quelque chose d'assez joli. Mais ça peut être aussi un molla avec une grande cape. Enfin, il y a quand même encore ce sens du vêtement, quoi, comme qu'on pouvait avoir nous au siècle dernier. On avait des couvre-chefs, voilà. Et je trouve ça particulièrement beau à photographier. Maintenant, bon, on pourrait en parler encore.
On pourra aller voir bientôt ces autres photos que vous avez réalisées dans le métro de Téhéran.
Alors, se trouve que on se trouve là aujourd'hui dans une situation un peu iranienne, puisque à l'iranienne, c'est-à-dire que je dis qui je suis sans le dire vraiment. Donc,
oui. Donc vous voyez, la liberté.
Ce qui est intéressant, justement, je précise une chose, c'est que si je cache mon nom, c'est pas à cause des Iraniens, c'est à cause des Américains. L'information, c'est que...
Allons-y, expliquez-moi ça.
Je vous explique pourquoi. C'est que si je signe avec un pseudo, c'est parce que j'ai perdu mon droit d'entrée aux États-Unis à cause de mes récents voyages en Iran. Ce n'est pas du tout les Iraniens qui posent problème, c'est les Américains. Et donc, c'est intéressant de voir que la censure n'est pas toujours là où on est. Et c'est un problème aujourd'hui pour les journalistes, parce que quand vous demandez, faites une demande de visa américain, vous avez ce problème. Alors, je tenais à le préciser parce que c'est pas du tout ce qu'on imagine dans cette histoire-là.
Alors, sur la situation en Iran, vous connaissez bien ce pays, vous vous rendez souvent là-bas. Comment est-ce que vous avez interprété les récentes manifestations contre le régime? Ces manifestations, c'est terminé, mais enfin, le sang a coulé. Il y a eu une vingtaine de morts, des centaines et des centaines d'arrestations. Pour vous, c'est un coup de semonce, un avertissement?
Alors c'est effectivement très compliqué déjà d'avoir des informations. Cela dit, il y a toujours ce décalage entre ce qu'on voit dans les villes et ce qu'on voit dans les campagnes. C'est-à-dire que à l'époque de la Révolution, il y avait déjà ce décalage. On n'a pas très bien saisi l'ampleur de la Révolution parce qu'on était cantonné en ville alors que dans la campagne ça bougeait beaucoup. Là, ce qui est déterminant dans ces nouveaux événements, c'est que c'est la campagne qui a bougé. Alors visiblement, c'est pour des histoires effectivement de niveau de vie, d'économie, de choses comme ça. Bien sûr, il y a un arrière-plan les libertés. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un politologue, je ne peux pas analyser ça de manière très très subtile.
Mais vous parlez avec les Iraniens,
avec les gens, évidemment. Il y a plein de gens qui aimeraient bien des libertés individuelles, qui aimeraient bien effectivement ces histoires de voiles qui vont sans doute, j'espère, disparaître. Il y a beaucoup de problèmes effectivement à ce niveau-là. Et en même temps, on trouve aussi dans la rue, par exemple, on dit les femmes n'ont pas le droit de chanter toutes seules, etc. Et dans les rues de Téhéran, moi j'ai photographié des groupes de musique avec des femmes qui chantaient toutes seules dans la rue. Alors c'est un petit peu inattendu parce que naturellement elles risquent de se faire arrêter par la police, mais elles ne sont pas arrêtées par la police. Moi, la femme que j'ai eue, elle me dit « moi j'en ai rien à faire ». Donc c'est ce qui est intéressant justement, c'est tout ça. C'est-à-dire que les gens savent qu'il y a un certain nombre de restrictions, mais en même temps ils prennent le risque de sortir ensemble, ils prennent le risque de faire des choses en espérant qu'ils n'auront rien parce que la période est plutôt favorable à ça. Alors en même temps, quand on regarde, j'ai regardé les images qui ont été publiées dans la presse, etc. Ce qui m'a étonné, j'ai vu les images, par exemple, des manifestations devant l'université, et devant cette université, les soldats n'étaient pas armés, ils avaient des simples gourdins. Alors que je fais toujours ce parallèle avec la France, nos policiers sont lourdement armés. Donc je me dis toujours, c'est toujours difficile à interpréter parce qu'on ne sait pas peut-être est-ce que ces manifestants ont été manipulés par le clergé radical qui veut créer des ennuis à Rouhani. Est-ce que c'est un véritable mouvement populaire? Il y a un peu de tout ça, quoi. Mais justement, l'Iran, c'est le pays par excellence où on ne peut pas se faire une idée précise c'est pas un pays de la rationalité.
Mais on a le sentiment aujourd'hui que les Iraniens, ils pensent surtout à l'économie plutôt qu'aux libertés. Ils veulent une amélioration de leur situation. Après, bon, il y a aussi le dossier, bien sûr, des libertés.
Alors oui, voilà. Alors à l'heure actuelle, ils ont compris que c'était quand même ça important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômage en Iran. Il faut pas oublier que l'Iran est le pays sans doute qui produit le plus d'étudiants qualifiés, en particulier des femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes sortent des universités iraniennes tous les ans. Moi, je suis invité régulièrement à faire des conférences pour des photojournalistes et des journalistes. Ouais. L'Iran produit un nombre de journalistes absolument phénoménal. Je ne sais pas où ils vont travailler. Donc, leur principal problème aujourd'hui, c'est de trouver un boulot.
Et est-ce qu'on sent quand même un décalage de plus en plus fort entre cette population iranienne, très jeune, confrontée toujours à cette pesanteur du pouvoir religieux des mollahs?
Alors oui, alors c'est difficile à dire parce qu'on voit comment les gens s'adaptent. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui veulent partir. En même temps, ils arrivent à trouver un espèce de modus vivendi. Ouais. On sait jusqu'où ne pas aller trop loin, où il faut s'arrêter. Et ils ont une intelligence. On voit quand on voit le cinéma iranien, qui est incroyablement intéressant. Enfin, je veux dire, ils continuent à produire en Iran des trucs absolument incroyables qu'on n'imaginerait même pas chez nous, avec une subtilité absolument remarquable. Moi, chaque fois que je regarde des films iraniens, je suis sidéré par la qualité de ce travail, qui est un héritage aussi. Il ne faut pas oublier des cinéastes de la guerre Iran-Irak. Il y a eu une génération de cinéastes dans cette guerre qui sont nés, qui ont grandi grâce à la guerre Irak. Donc c'est quelque chose extrêmement complexe, l'Iran aujourd'hui.
Pierre Muscat, merci beaucoup, photographe, journaliste. Je rappelle ces photos réalisées dans le métro de Téhéran. Mon reportage interdit dans le métro de Téhéran, c'est à voir dans le trimestriel Oui Demain qui vient de sortir. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Avant de passer aux autres dossiers d'un jour dans le monde, voici le groupe Tchégué, Fatih et Dakou. C'est Survivor, énergie, super mélange de musique africaine, électro et rock. Tchégué, c'est le nom qu'on donne aux gamins des rues à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le groupe Tchégué, Survivor.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et voici Virginie Pironon pour Sous les radars de l'actualité. Virginie, on commence avec les autorités israéliennes qui poursuivent la mise en place de leur plan visant à faire partir près de 40 000 migrants du pays.
Principalement des Érythréens et des Soudanais. Le gouvernement israélien leur donne le choix et c'est assez cynique, vous allez voir. Soit un départ volontaire, entre guillemets, vers un pays tiers, le Rwanda ou l'Ouganda, selon certaines sources, soit la prison pour une durée indéterminée. Et pour la toute première fois, avant-hier, les autorités ont transféré en prison au moins 12 premiers migrants érythréens qui ont préféré rester en Israël. Selon le correspondant de Radio France Internationale, sur place, ils n'auraient même pas eu le temps de rassembler leurs effets personnels. Alors aujourd'hui, des centaines de migrants africains ont manifesté, des migrants qui, dans leur grande majorité, n'ont évidemment aucune envie de retourner en Afrique. Comme ce jeune érythréen arrivé en Israël il y a maintenant 8 ans, il s'exprime devant une caméra de l'agence France Presse.
Le Rwanda, l'Ouganda ou un autre pays tiers, je les appelle pays où ma vie est en danger, pays de la mort. Je ne veux pas dénigrer ces pays, je ne les connais même pas, mais je sais qu'ils m'achètent. Constamment sur mon chemin vers Israël, j'étais vendu. Les Bédouins me vendaient l'un à l'autre et maintenant, Israël me vend au Rwanda et à l'Ouganda. C'est comme l'emprisonnement à vie. Qu'ai-je fait ? C'est vraiment stressant, je ne dors pas la nuit.
Selon certaines sources, Israël aurait promis à ses pays d'accueil, Rwanda et Ouganda, 5 000 $ par migrant accueilli. Ce plan est considéré comme le plus à droite de toute l'histoire d'Israël. Il est dénoncé au sein de la société par des intellectuels, des médecins et suscite également une large réprobation du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés.
Virginie, cette fois c'est officiel, aux Jeux Olympiques d'hiver, un curleur russe perd définitivement sa médaille de bronze.
Oui, c'est un des événements marquants de la nuit dernière à Pyeongchang, en Corée du Sud. Le curleur russe sous bannière olympique, Alexander Krushelnitsky, contrôlé positif au meldonium, un médicament très répandu dans les pays de l'Est, a rendu sa médaille de bronze, remportée en double mixte avec sa femme. Voilà, vous l'entendez, médaille remportée la semaine dernière face aux Norvégiens à qui le bronze devrait donc revenir. « Je n'ai jamais violé les règles et ne me suis pas dopé », a déclaré Alexander Krushelnitsky à l'agence d'État russe TASS. Un coup dur décidément pour la Russie, dont la délégation officielle a été exclue des Jeux suite à la révélation d'un système de dopage institutionnalisé. Une claque même. Alors la première réaction officielle vient de la Fédération de curling russe. Des substances interdites auraient pu être versées dans la nourriture de l'athlète à son insu, bien sûr.
Et, oui, et puisqu'on parle nourriture, Virginie Pironon, vous revenez sur cette pénurie de poulet dans les restaurants de la chaîne KFC en Grande-Bretagne.
Un drame, Pierre, pour les amateurs de poulet frit qui se cassent le nez sur des portes closes. Des centaines de restaurants toujours fermés dans le pays. Problème de livraison. Livraison qui vient tout juste d'être confiée à la société allemande DHL qui a bien du mal à suivre. Résultat, des consommateurs qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, comme cette parodie réalisée pour la matinale radio d'une grande chaîne musicale, une animatrice déguisée en poulet filmée devant un KFC.
What do we want? Chicken!
Qu'est-ce qu'on veut? Du poulet!
When do you want it? Now!
Et on le veut maintenant! Puis l'animatrice entre dans le restaurant, s'affale sur une table et déclare:
I'm here, I'm ready, cook me!
Voilà ce cri du cœur. Cuisinez-moi, dit-elle déguisée en poulet. On en rit, Pierre, mais certains consommateurs accros à la friture seraient vraiment au bord du désespoir.
Mais je les comprends. Sous les radars de l'actualité, Virginie Pironon. Merci Virginie.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et voici l'escale reportage ce soir au Chili, à Santiago, où l'on voit dans les rues de nombreux vendeurs ambulants haïtiens. Phénomène tout à fait nouveau. L'an dernier, plus de 100 000 haïtiens ont débarqué à Santiago. Cela reste moins que le nombre de migrants vénézuéliens, mais toutes ces arrivées cumulées en si peu de temps, c'est inédit au Chili. Justine Fontaine est notre correspondante à Santiago. Justine, pourquoi les haïtiens choisissent le Chili pour émigrer et comment vivent-ils sur place?
Eh bien, l'une des explications, c'est que le Chili a une participation importante dans des missions de l'ONU en Haïti, y compris même avant le tremblement de terre de 2010. C'est comme ça que les premiers migrants haïtiens se sont intéressés au pays. Et si cette migration a pris une telle ampleur, c'est aussi parce que le Chili ne demande pas de visa aux Haïtiens. Mais une fois sur place, ils vivent souvent dans des conditions difficiles.
Alors Justine Fontaine, c'est ce qu'ils vous ont raconté, ces migrants. Reportage d'abord avec vous à l'aéroport de la capitale chilienne.
C'est ici à l'aéroport international de Santiago qu'arrive l'immense majorité des Haïtiens, 450 par jour en 2017. Ce matin-là, quelques dizaines de personnes sont venues chercher un proche ou un ami venu de Port-au-Prince. Natacha Pierre-Paul attend un de ses cousins. Cette jeune femme de 27 ans vit au Chili depuis un peu plus d'un an.
Maintenant, j'ai à peu près 5 cousins et 2 cousines qui vivent ici au Chili. Je travaille depuis 8 mois chez une vieille dame. Elle a 71 ans à peu près. Et avant, j'ai travaillé un peu à la campagne, pour la récolte des fruits, dans les vignes, un peu de tout.
Elle envoie chaque mois de l'argent à sa mère et à sa grand-mère en Haïti, mais n'a pas encore pu économiser suffisamment pour que sa fille vienne vivre avec elle au Chili. Comme la plupart des immigrés, vénézuéliens, péruviens ou même européens, les Haïtiens entrent au Chili avec un visa de touriste et n'ont pas besoin de faire une demande particulière avant d'atterrir ici. C'est ce que souligne le directeur de la police migratoire de l'aéroport de Santiago, Bernardino Cárdenas. Il nous reçoit dans son bureau juste derrière les guichets de contrôle des passeports.
Chile est un pays où la
nationalité. Au Chili, les Haïtiens n'ont pas besoin de faire de demande de visa préalable. Les conditions d'accès sont les mêmes pour eux que pour les autres touristes.
En 2013,
environ 2000 étrangers de nationalité haïtienne sont entrés au Chili. En 2017, c'était 100 000 et on s'attend à des chiffres similaires cette année.
Igual cifra de extranjeros de nacionalidad haitiana que ingresaron a nuestro país.
La plupart de ces migrants viennent chercher du travail, une vie meilleure pour eux et pour leur famille. Mais une fois arrivés sur place, les difficultés sont nombreuses. La langue, par exemple, est un obstacle important, car peu d'Haïtiens parlent l'espagnol lorsqu'ils arrivent au Chili. Stanley, 30 ans, s'est installé ici l'an dernier et il avait sous-estimé certaines difficultés.
Pour trouver un travail, c'était vraiment difficile. J'ai passé environ 5 mois sans travailler. C'est mon frère qui vit aux États-Unis qui m'envoie de l'argent pour payer le loyer. Parce que pour avoir la carte d'identité chilienne, il faut trouver un contrat. Et les entreprises refusent de donner un contrat aux gens seulement avec le passeport. Et ils réclament toujours la carte d'identité chilienne.
Comme son diplôme n'est pas reconnu ici, il travaille dans la restauration rapide, mais cherche un autre emploi car le salaire minimum inférieur à 400 euros ne lui suffit pas pour vivre correctement et envoyer de l'argent à sa famille. Pour Josette Louis, 33 ans, c'est la précarité du système de santé qui l'a poussée à venir ici. En Haïti, elle a perdu un enfant à la naissance.
Quand mon fils est mort, mon mari a décidé de quitter le pays. Parce qu'en Haïti, on manque de médecins. Dans la capitale, il y a de bons hôpitaux, mais ils sont très chers. Je suis arrivée ici en juillet et je suis tombée enceinte en août.
Elle est allée voir le médecin il y a quelques jours, son bébé va bien. Alors même si elle vit dans une seule pièce, très sommaire, avec son mari, et qu'elle ne trouve pas de travail, elle souhaite rester ici. Comme elle, malgré les difficultés et les discriminations, très peu de migrants haïtiens quittent le Chili pour le moment, comme le souligne José María del Pino, directeur exécutif de la Fondation FRAY. C'est une association créée pour favoriser l'intégration des immigrés haïtiens.
Ils sont confrontés à des employeurs qui ne respectent pas leurs droits en tant que salariés. Ils subissent des discriminations dans la rue. Les migrants haïtiens ont des problèmes de logement surpeuplé. La barrière de la langue les rend vulnérables aux arnaques. Et tout cela génère de la précarisation. Mais ce qui est le plus marquant, c'est que quand on parle avec eux, certains expliquent que malgré tout, ils vivent mieux ici, car ils peuvent aller à l'hôpital et y être reçus, qu'ils ont accès à des médicaments et que même s'ils partagent une salle de bain avec 30 personnes, eh bien cette salle de bain est reliée à l'eau potable.
Pour un autre migrant haïtien, Jeff Basile, c'est bien là le fond du problème, le développement d'Haïti. Le jeune homme défend la liberté de migration, mais souligne aussi la responsabilité de la communauté internationale dans ce phénomène.
J'aurais aimé que l'ONU ait renforcé les pays en voie de développement, les pays pauvres, pour pouvoir réduire le taux de la migration. Parce que l'immigrant n'est pas toujours quelqu'un qui veut quitter son pays. C'est toujours quelqu'un qui part à la recherche du bien-être, connaître le monde. Et oui, j'avais cette idée, j'avais toujours ce projet. Mais quitter Haïti, de vivre en dehors d'Haïti, ce n'était pas dans mon objectif, ce n'était pas un point dans mon projet.
Ces derniers mois, l'immigration a commencé à susciter un débat dans la société chilienne, car c'est la première fois que le pays est confronté à des arrivées aussi importantes en si peu de temps. Le nouveau président de droite, Sébastien Piñera, qui prendra ses fonctions le mois prochain, a promis pendant la campagne électorale une nouvelle loi sur la migration, un texte qui pourrait rendre plus difficile l'entrée sur le sol chilien.
Justine Fontaine, reportage à Santiago du Chili. C'est un album qui est sorti en 1975, un choc aux États-Unis, Born to Run de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen fait aussitôt la couverture de Time Magazine et Newsweek, Born to Run, la chanson qui donne son titre à l'album. C'est un hymne rock, il y a du rêve, de l'évasion, de la frustration, la solitude, la violence. Springsteen a travaillé 6 mois sur cette chanson, 6 mois, faisant, refaisant, remixant sans cesse l'enregistrement. Et au bout de 6 mois, il a dit « ok » à cela. To Run, sublime, la classe absolue. Bruce Springsteen actuellement donne des concerts dans un théâtre de Broadway à New York. Il a commencé en octobre, c'est plein, et là il vient de prolonger jusqu'au 30 juin. Il n'y a plus de place, c'est déjà absolument complet. On espère que ces concerts intimistes de Springsteen, seuls sur scène, vont se déplacer, par exemple une tournée en France, à Paris ou dans quelques grandes villes de province. Power Hit Radio. BBC News. Al Jazeera. CBS Morning News. France Inter. Public Broadcasting. Le 18-20. Equals more reasons to watch. Un jour dans le monde. Oui, et la presse dans le monde, c'est maintenant et ce soir les journaux en Grande-Bretagne et en Russie. D'abord Moscou et notre correspondant permanent à Moscou, Claude Bruyot. Bonsoir Claude.
Bonsoir Pierre.
Claude, les bombardements des populations civiles dans la route à ce faubourg de Damas sont bien sûr parmi les principaux sujets traités dans les médias russes aujourd'hui.
Oui, la route orientale deviendra-t-elle un second Alep, s'interroge le quotidien indépendant Nezavissimaya Gazeta, référence évidemment au bilan humanitaire très lourd des bombardements actuels de l'aviation syrienne avec, sinon l'appui, du moins l'assentiment de la Russie. Là où les télévisions fédérales, elles, continuent de relayer les positions officielles du Kremlin sur le mode « les bombardements se poursuivent » car il reste des djihadistes dans la Routa qui tirent des roquettes sur les civils syriens, dans certains quartiers de Damas, et les présentateurs n'hésitent pas à dépeindre à longueur d'édition les soldats, je cite, les soldats russes comme des combattants de la liberté qui luttent contre le terrorisme international. Quant aux civils de la Ruta, ce sont, disent les présentateurs, les djihadistes qui les empêchent de fuir, et les chaînes fédérales indiquent qu'ils, évidemment, touchent un public très large. Pour terminer, sur le mode officiel, l'agence Interfax rappelle, elle, que depuis plusieurs jours, l'état-major russe propose en vain aux combattants de la Ruta de se retirer des lieux avec leurs familles.
Le régime syrien qui a repris aujourd'hui ses frappes aériennes sur la Ruta au cinquième jour. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé une trêve immédiate et dénoncé un enfer sur Terre. Claude Brouillot, Moscou, il est aussi question d'humanitaire et de liberté d'expression à l'intérieur de la Russie, puisque trois jours avant la date officielle, certains médias russes commencent à présenter le contexte dans lequel va se dérouler dimanche le troisième anniversaire de l'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov.
Oui, et c'est à la demande de la candidate de l'opposition dans la course à la présidentielle, Ksenia Sobchak, que le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, vient finalement d'accepter qu'une plaque commémorative soit apposée sur l'un des murs de la maison dans laquelle vivait Boris Nemtsov. C'est le quotidien indépendant Commerçante qui s'en fait l'écho. Le journal rappelle tout de même que dans un premier temps, les locataires de la maison avaient fait installer cette plaque, mais les autorités locales avaient très vite ordonné de la retirer, faute de demande officielle autorisant cette démarche. 3 ans après donc la mort de l'opposant principal à Vladimir Poutine à l'époque, cette fois la plaque va bien être posée et rester sur le mur de son ancienne maison. Pour rappel, les assassins de Boris Nemtsov, un groupe composé essentiellement de ressortissants tchétchènes, a été condamné à des peines allant de 11 à 20 ans de prison. Toujours rien en revanche concernant les véritables commanditaires de l'assassinat.
Claude Brouillot en direct de Moscou. Merci Claude. Direction Londres maintenant avec Antoine Gignot, notre correspondant en Grande-Bretagne. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Chez vous, les ministres ont quitté Londres pour se mettre au vert.
Absolument, ils sont isolés, enfermés, exilés dans une maison à 1h30 de Londres, en plein milieu de la campagne. Personne ne sortira tant qu'on ne se sera pas mis d'accord, explique David Davis, le ministre du Brexit. Et le Financial Times décrit ce sommet marathon qui doit permettre enfin de trouver une position commune sur la sortie de l'Union européenne. Il s'agit surtout d'imaginer ce que va devenir le pays après mars 2019. L'Union européenne a proposé une période de transition d'un petit peu moins de 2 ans. L'idée semblait acquise. Et puis hier, la première ministre, Theresa May, a publié un document qui ne prévoit aucune date butoir. Résultat, colère et hurlement chez les pro-Brexit. Si ça dure 5 ans, explique dans le Télégraphe Jacob Rees-Mogg, au final, on risque de ne plus jamais partir.
Antoine, mais ça peut vraiment durer aussi longtemps ?
C'est ce que dit en tout cas le Financial Times. Les négociations de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada ont pris 7 ans au total. Alors l'accord que Londres veut signer risque de prendre encore plus longtemps parce qu'il est encore plus compliqué. Certains ministres le reconnaissent en privé. Il faudra peut-être attendre jusqu'en 2024. Alors du coup, le gouvernement tente de rassurer. David Davis promet qu'il n'y aura pas de Brexit façon Mad Max, déréglementé et violent. Et du coup, comme un pied de nez, le quotidien économique fait la liste des scénarios les plus délirants, avec un Brexit Blade Runner, où tous les Britanniques seraient forcés de manger du poulet au chlore importé des États-Unis, un Brexit Terminator, avec un androïde envoyé dans le passé en 1972 pour assassiner l'homme chargé de signer le traité d'adhésion à l'Union européenne, et puis un Robocop Matrix, où les Britanniques seraient branchés sur des appareils qui leur feraient croire que la vie hors de l'Union européenne est géniale. Il y a même un Brexit Fahrenheit 451 dans ce scénario-là. Tout le monde brûle les rapports des experts économiques.
Très bien. Antoine Gignot, après le cinéma, le Guardian s'intéresse à la musique avec un coup dur pour le gouvernement sur la scène des Brit Awards.
Et ça, c'était hier soir, la cérémonie qui récompense les meilleurs artistes de l'année. Il y avait sur scène un rappeur qui a profité de la retransmission en direct pour interpeller directement la Première ministre. Il s'appelle Stromzy et ce qu'il demande à Theresa May, c'est de s'occuper des victimes de l'incendie de la tour Grenfell, l'incendie qui a eu lieu au mois de juin dernier. Elles n'ont pas été toutes relogées pour l'instant. Où est passé l'argent, dit-il. Vous devriez faire de la prison et payer les dommages. La polémique et la vidéo ont pris tellement d'ampleur que Downing Street a été obligé de répondre cet après-midi. Theresa May évoque une tragédie inimaginable, ce sont ses mots, et elle rappelle que plus de 60 millions d'euros ont été débloqués pour les familles.
La presse en Grande-Bretagne, Antoine Gignot en direct de Londres. Merci Antoine.
le 18-20. Pierre Veil sur France Inter.
L'édito Diplo avec Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Veil, bonsoir Pierre, pardon, bonsoir à tous.
En Espagne, c'est la censure d'une œuvre d'art qui fait scandale.
Oui, l'affaire a été révélée hier et monopolise aujourd'hui beaucoup des commentaires des médias espagnols, avant même l'ouverture de la Foire Internationale d'Art Contemporain de Madrid, l'Arco. Une œuvre a été retirée. C'est le directeur de cette manifestation prestigieuse, hein, qui s'appelle Clemente González, qui a obtenu de la galliériste Helga de Alvear le retrait de cette œuvre du plasticien Santiago Sierra, intitulé « Prisonnier politique ». Alors, pour comprendre l'importance de ce scandale, il faut savoir que l'Arco, l'équivalent en fait de la FIAC à Paris, en est à sa 37e édition. Cette foire est donc une des manifestations les plus explicites de la démocratie et de la liberté retrouvée en Espagne. En 37 ans, jamais une œuvre n'avait été retirée. Alors, que diable contenait cette œuvre de si perturbant pour qu'elle soit ainsi retirée? Il s'agit en fait d'une série de portraits en noir et blanc accompagnés d'une légende historiographique. Or, trois de ces portraits sont consacrés à trois figures du nationalisme catalan, l'ex-vice-président de la Catalogne, Oriol Junqueras, et les deux Jordi Sánchez et Jordi Cuixart. Le premier est sous contrôle judiciaire et les deux autres sont en prison.
Anthony, décidément, la Catalogne rend fou en Espagne ?
C'est peu de le dire. Pour tous ceux qui connaissent bien l'Espagne et qui ont notamment l'habitude de lire sa presse, c'est aujourd'hui presque devenu un supplice de parcourir les pages d'El Mundo, un quotidien conservateur, mais aussi celle du vénérable El País. Ce dernier, El País donc, qui est issu de la transition vers la démocratie, a toujours été, pour moi en tout cas, mais pour beaucoup d'autres aussi, une sorte de repère de sérieux, d'intelligence et d'honnêteté journalistique. Il est devenu aujourd'hui illisible sur tout ce qui concerne la Catalogne. Ce quotidien transpire désormais la haine des indépendantistes catalans, au point de virer en octobre dernier un journaliste britannique, qui s'appelait John Carlin, dont l'opinion divergeait sur le sujet. Défendait-il des opinions extrémistes, au point de mettre en péril la cohérence éditoriale du quotidien ? Eh bien, pas du tout. Il mettait juste en parallèle Brexit et indépendantisme catalan, ce qui n'est pas stupide, et surtout accusait les élites madrilènes d'aveuglement.
Et ça suffit à faire virer un journaliste ?
Eh bien, en ce moment, en Espagne, oui, visiblement, d'autant que John Carlin avait le défaut d'être étranger britannique. En clair, en Espagne, le linge sale se lave en famille et John Carlin avait le défaut d'exposer cette lessive douteuse dans toute l'Europe. Donc, adios, bye bye. Mais revenons à la Catalogne. Quel est le fond du problème? C'est en fait ce que j'appelle le pacte de la peur et de la démocratie. En 1978, il y a donc pile 40 ans, les anciens franquistes et les démocrates revenus d'exil sont parvenus à un compromis. Une Espagne plurielle, certes, mais indivisible, et un roi pour couronner le tout, si je puis me permettre. Cette situation convenait parfaitement aux partis politiques, disons, espagnolistes, c'est-à-dire socialistes, communistes et conservateurs. Un peu moins aux nationalistes régionaux. Mais c'était un compromis. Il y avait à l'époque une promesse d'évolution à venir. Donc, les indépendantistes catalans, mais aussi basques, je parle des démocrates, pas des radicaux, ont accepté ce deal dès le départ. Il y a donc ambiguïté.
Donc, vous voulez dire qu'on est arrivé là, au bout de ce compromis ?
Exactement. Deux générations sont passées et la peur d'un coup d'État, d'une répression, de la prison a disparu. Il est donc temps de revoir les termes de cet accord. Tout le monde le sait en Espagne et c'est le chantier des 5 ou 10 années à venir.
Anthony Bélanger sur France Inter. Merci Anthony, il est 19h.